Parlons sport sur RTVFM.
RTVFM.
Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission en direct depuis le 102.2 et depuis le studio de Carpentrasser. Je suis ravi de vous retrouver avec mes colistiers pour parler pendant 1h30 de sport. Je vais vous les présenter, mes colistiers. Valérie va arriver un petit peu en retard, donc je lui dirai bonjour tout à l'heure, mais je suis avec Jean-Yves. Salut Jean-Yves.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous.
Bonsoir tiens, voilà, il y a Valérie. Bonjour Valérie.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous.
C'est pour vous prouver qu'on est vraiment en direct, hein, c'est la course le soir. Ravi de vous retrouver tous les deux, et bien sûr notre technicien du soir, Théo. Salut Théo.
Salut Lionel.
Ça
tu
va
m'entends Lionel? Ouais.
Ouais, je t'entends bien. Roger. Alors, aujourd'hui, on va parler d'haltérophilie. T'en as fait, Jean-Yves, t'as un peu d'haltéro? Parce que t'as le gabarit d'un haltérophile.
Ouais. J'en ai fait.
Non, pas musclé, mais petit.
J'en ai fait à midi ma fourchette, bien propre. Non, jamais de la vie.
Jamais de la vie?
Non. Bon. Je me tiens loin. Dès que je vois une salle confinée, tout ça, je me tiens toujours un peu loin. Des salles de muscu, d'haltérophilie, tout ça, je me tiens.
Ouais. Mais moi, je suis admiratif. Parce que quand tu vois les kilos qu'ils portent,
qui, moi
oui. Non, pas toi.
Ah.
Non, mais les haltérophiles.
D'accord.
Toi, tu portes 50 kilos, déjà, t'es crevé.
Ah oui, non, mais moi, je porte 120 kilos toute la journée, donc même pas mal.
Ah oui.
Allez.
Nos comments.
La suite.
Donc, nos invités donc, de l'EEAR, donc, je vais vous dire exactement la dénomination de EEAR, donc c'est Espérance Étoile Aurore Réunie de Monteux. Hein, je ne me suis pas trompé. Et pour en parler, tout d'abord, le président du club, Benoît Gourier. Bonsoir, Bruno.
Bonsoir.
Benoît. Tu vas bien, Benoît?
Non, Benoît Gourier, bonsoir, Bruno.
Non, première et dernière fois que je me trompe. Ouais, c'est vrai que c'est la fatigue. Et bien sûr, Jean-Pierre Brunet. Bonsoir, Jean-Pierre.
Bonsoir. Bonsoir tout le monde.
Tu es vice-président du club et président du comité de Vaucluse d'haltérophilie.
Bonsoir, Jean-Philippe.
Non, c'est Jean-Yves. Bon, allez, on va arrêter avec les prénoms parce que sinon on va partir. Donc, aujourd'hui, on a un petit peu modifié l'organisation de l'émission. Au départ, on donnait les résultats sportifs et puis après, on parlait de l'haltéro. Ben là, on va se lancer directement dans le grand bain. On va parler de l'haltérophilie. Donc, comme tu connais pas trop l'haltérophilie, j'ai commencé par ma première question parce que j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça. Tu peux mettre le casque? Tu n'entends pas? Non, mais on va te monter le son. Jean-Yves, regarde s'il a branché son sonotone.
Et moi, je dirais.
C'est méchant, hein. Tu entends bien? Non, tu n'entends toujours pas. Bon, mais c'est pas grave. Sinon, tu enlèves et tu m'entendras bien. Donc, ma première question, j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était les championnats du monde, c'était de force pure. Donc, un peu comme, alors pas les basques, mais c'était vraiment, ils devaient porter, alors c'était pas des haltères, hein, Benoît, c'était des, alors il y avait une voiture, ils devaient tracter des camions, et tout ça. Quel rapport y a-t-il, s'il y en a un, rapport entre l'haltérophilie et justement ces sports de puissance?
Donc, mis à part soulever des charges...
Non, c'est bon, Valérie.
Mis à part soulever des charges au-dessus de la tête ou au niveau du corps, c'est le seul point commun. Tout ce qui est technique, entraînement, aucun rapport entre les deux disciplines.
Aucun rapport. Parce que j'ai l'impression que ces sportifs-là, parce que vraiment, on peut appeler ça des sportifs, ils soulèvent excessivement lourd. Donc après, il y a un rapport, parce que je ne sais pas quel est le record du monde en soulevé en haltérophilie.
Alors le record du monde à l'heure actuelle est de 263 kilos à l'épaule jetée. Donc c'est-à-dire qu'on a la barre aux épaules et qu'on la jette après au-dessus de la tête.
Ah ouais, c'est énorme quand même, 263 kilos.
Oui, c'est énorme.
Mais et dans ces sports-là, c'est vrai qu'automatiquement, on monte beaucoup plus
Oui, mais après... Il y a certains haltérophiles en fin de carrière qui se reconvertissent un petit peu dans ces sports de force. Mais c'est vrai que l'inverse est difficile. Parce qu'on a un aspect technique très important. Et donc la force pure seulement ne suffit pas à soulever correctement une barre d'haltérophilie.
Sans compter que dans les sports de force pure, là, ils ne montent pas jusqu'aux épaules. Ils relèvent le truc, souvent à peu près à la hauteur du nombril. Et après, ils le relâchent. Donc, il n'y a pas autant de technique, effectivement, que dans l'haltérophilie.
Et j'ai remarqué aussi qu'ils ont un ventre relativement prédominant parce qu'ils s'en servent. Pour ça, je me demandais si tu n'avais pas pratiqué ce sport. J'en arrive. Mais en fait, ils s'en servent pour lever la charge. Et faut, pour faire, on va dire, une étape avant de soulever, parce que je crois qu'il dépasse les 300 kilos, donc c'est quelque chose d'énorme. Quand un humain portait plus de... Même ne serait-ce que 263 kilos, c'est pharaonique.
Non, mais la différence énorme qu'il y a entre l'haltérophilie et ces sports de force, c'est que ces sports de force, c'est que les, on va dire, entre parenthèses, les gros qui peuvent briller, alors qu'en haltérophilie, il y a 10 catégories. C'est-à-dire qu'un haltérophile de 61 kilos peut être champion du monde.
Dans la catégorie des 61 kilos.
Dans sa catégorie
kilos.
De poids de corps.
Parce que là, tu disais, Benoît, que le record du monde était à 263 kilos, mais comme disait Jean-Pierre...
Ça, c'est la plus grosse catégorie.
Les plus de 109 kilos. Voilà, donc la plus grosse catégorie en haltérophilie, oui, tout à fait.
Parce que les catégories, c'est en poids...
Et en âge.
Et en âge. Et là, en l'occurrence, donc là, c'est plus de 120 kilos, mais par exemple, quelqu'un qui a 61 kilos, qui pèse 61 kilos, il peut soulever jusqu'à combien à peu près ?
Ah bah, le record du monde, alors pour vous donner une idée, hein, le record du monde aux alentours des 175 kilos en moins de 61 kilos.
Ah, donc, quand même.
Le ratio est énorme, oui, tout à fait. Hein.
Bah, c'est toujours à peu près x3, quoi. Oui.
x2,5, x3. Ouais. Ouais.
On a connu des haltérophiles turcs, par exemple, avec Solomon Oglou, qui avait pratiquement fait trois fois son poids de corps. Alors, quand il était dans une catégorie qui était à l'époque de 62 kilos, je crois. Hein.
Et par contre...
Il était à 190 kilos à l'épaule jetée.
Ah oui, parce qu'au niveau des disciplines en haltérophilie, on a quoi ? Donc, on parlait de l'épaule jetée. Il y en a d'autres, non ?
Il y a deux mouvements. Il y a le premier mouvement qui est l'arraché, c'est-à-dire amener la barre à bout de bras en un seul temps.
C'est-à-dire que tu pars du sol et tu arrives bras tendus au-dessus de la tête.
Voilà. Ça, c'est n'importe comment. L'haltérophilie, c'est un sport olympique où il y a deux mouvements. L'arraché et l'épaule jetée. Et l'addition de ces deux performances font le total olympique.
Donc, ça veut dire qu'en fait, tu es obligé de faire les deux.
Oui. Oui, oui.
Et pour les 263 kilos, donc c'est à l'épaule jetée.
Uniquement.
Donc, uniquement. Oui, uniquement. Et à l'arraché, par exemple, on est à
220
combien ?
220 kilos.
Ah, il n'y a pas beaucoup de différence. Pas beaucoup de différence à ces kilos-là.
Quand tu arrives à 45 kilos dans ces sphères-là, c'est lourd. Quoi. Parce que quand tu vois que le record, ça progresse très, très lentement, c'est 43 kilos, là, c'est un truc de fou quand même.
C'est surtout beaucoup. Que c'est rajouté à un record déjà. Donc c'est ça, c'est le rajout de 43 kilos qui est énorme.
Oui, mais la différence, c'est qu'effectivement, on part en arraché. Donc c'est vraiment un mouvement qui permet de. Et on n'a pas l'étape au niveau des épaules.
Tout à fait.
Donc c'est vrai que, bon, c'est vrai que 45 kilos, c'est important, mais en même temps, bon, c'est. Bon, après, c'est.
Si vous voulez, nous, en haltérophilie, on dit que l'arraché, c'est le mot plus technique. Et que l'épaulé jeté, c'est un petit peu le mouvement de force de l'haltérophilie. C'est-à-dire que quelqu'un de très fort aura plus tendance à faire des barres en épaule jetée et quelqu'un de très technique aura plus tendance à faire des barres en arraché. Voilà un petit peu la différence.
Mais il est obligé quand même de faire les deux.
Mais il est obligé de faire les deux, tout à fait.
Et il y en a certains qui sont très mauvais d'un côté et très bons de l'autre ou...
Ça arrive, oui.
Tout à fait. Oui.
Et du coup, ça les empêche de briller.
Mais oui.
Ça les empêche de briller dans les concours et dans les compétitions.
À l'époque, on avait un recordman du monde... qui s'appelait Aimé Terme, qui était le meilleur arracheur du monde, à peu près. Et par contre, il devait être le 15e mondial à l'épaule jetée.
Et du coup, il sortait... il gagnait pas ou peu de compétition, du coup, parce que...
Il avait été champion, parce qu'au championnat du monde, il y a des médailles pour l'arraché, et médailles pour l'épaule jetée, et des médailles pour le total. Pas aux Jeux Olympiques, puisqu'il faut... Il n'y a que le total qui compte, mais pour les championnats du monde, championnats d'Europe, championnats de France aussi, on a des médailles
dans chacune des deux
dans chacun des moments. Je reviens en arrière, pas pour les championnats de France, voilà.
Et toi, ta spécialité, c'était quoi ?
Moi, c'était plus l'arraché.
L'arraché ? Et ouais. T'es monté à combien en poids ?
Combien j'ai arraché ?
Ouais.
127 kilos.
Et tu pesais ?
Je faisais à l'époque 82, 83 kilos, quoi.
C'est pas mal, hein. Ouais. Et toi, Benoît ?
Donc moi, à l'arraché, j'ai fait 110 kilos en pesant 62 kilos.
Ah oui. Et à l'épaule jetée ?
130 kilos.
On a quand même des sportifs, hein.
x2.
Ah ouais, non mais c'est impressionnant. Et Benoît, tu fais toujours la compétition ou non ?
Alors, j'en fais un petit peu encore pour rendre service. Bon, là, je suis plus passé dans le côté dirigeant qu'athlète. Mais il y a encore 2 ans, j'ai fait quelques tours en national parce qu'on a une équipe en national élite, top 9. Donc, voilà, si suivant certaines circonstances, en cas de blessure, je peux reprendre éventuellement pour compléter. Mais ça reste du complément et je ne suis plus la base de l'équipe. Hein.
Parce qu'en fait, en haltérophilie, dans les grands championnats comme ça, c'est par équipe ?
Alors, on a du championnat individuel, bien sûr. Et donc, au niveau national, depuis très longtemps, donc 25 ans ou 30 ans, on a ce qu'on appelle le championnat de national élite. Le championnat de national 2, le championnat régional, où en fait, c'est des équipes de 5 hommes. Et côté féminin, c'est donc 4 femmes.
Et donc, ça, automatiquement, il y a des remplaçants ?
Non. Les 5 athlètes engagés comptent. Le total des 5 compte.
Et le circuit fait combien de matchs ?
Alors, nous, à l'heure actuelle, comme on est dans les 9 meilleures équipes françaises et qu'on doit rencontrer en triangulaire chaque équipe, on a donc 4 journées qui constituent le championnat.
Ah oui, donc effectivement, ça peut être chargé, quoi.
Chargé, surtout que c'est la partie collective. Il faut rajouter à ça toutes les compétitions sélectives individuelles, les championnats de France, les championnats départementaux, régionaux. Donc, on a des saisons relativement bien chargées, oui, tout à fait.
Et au niveau justement des différents classements, donc tu parlais National 1, donc la National 1, c'est donc le haut niveau.
C'est ça.
C'est la division la plus haute.
C'est ça.
9 équipes, c'est ça ?
9 équipes, les 9 meilleures équipes françaises, oui.
Voilà. Après, on passe en National 2 ?
Alors, le terme exact, c'est top 9, donc pour les 9 meilleures équipes. Ensuite, National 1, National 2, National 3, Régional 1, 2, 3.
Et en PACA, vous êtes la seule équipe
en
top 9 ?
En PACA, on est la seule dans le top 9, oui, tout à fait.
Ah oui, c'est chapeau. Hein. Et par contre, justement, par rapport à ce top 9, on peut monter, descendre
Le dernier descend automatiquement. Et après, c'est un système de barrage, c'est-à-dire que l'avant-dernier est en concurrence avec le second de la division du dessous, et l'avant-avant-dernier est en concurrence avec le troisième du dessous. Donc il peut y avoir au minimum une descente et au maximum 3 descentes, ce qui n'est pas négligeable sur 9 équipes.
Et en top 9, on est pro ?
Non.
Le professionnalisme existe ou pas ?
Il n'y a pas de professionnel.
Il n'y a pas de professionnel. Même dans les pays, parce que les meilleures équipes, c'est les pays de l'Est, non ?
Il n'y a pas forcément de championnat dans les pays de l'Est. En
fait. Actuellement, les meilleurs, c'est les Chinois.
Ah bon ?
Ah oui.
Ah ouais. Parce que c'est vrai que... Moi, je pensais plutôt les Polonais, les Russes.
Il y a eu les Bulgares à une époque. Alors, on va... Justement, pendant qu'on y est, ça, on va l'évacuer de suite. Comme ça, on n'en parlera plus, d'accord ? Où on en est de ces histoires de dopage, de machin ? Parce que ça a pas mal pourri la réputation et l'engouement qu'auraient pu avoir les gens par rapport à l'haltérophilie. On a tous entendu parler des Bulgares, des Russes à l'époque qui se chargeaient comme des mulets, les Allemands aussi, les Allemands de l'Est, me semble-t-il, les Turcs, enfin voilà. Où on en est ? Est-ce que c'est définitivement derrière ? Il n'y a plus aucun souci là-dedans ?
Ah si, il y a toujours des soucis quand même. La seule preuve qu'il y a toujours des soucis, c'est que le meilleur français, il est de chez nous. L'homme le plus fort de France de tous les temps est Anthony Coulet, qui a fait 221 kilos à l'épaule jetée.
Avec les suivis longitudinales.
Benoît a dit qu'il avait fait 263. 221, 263.
40 kilos d'écart. C'est qui les donne, cela ? C'est le docteur ?
Pardon ?
C'est qui les donne ces 40 kilos ? C'est le docteur ? C'est le pharmacien ?
Pas de preuves ? Jusque-là, puisqu'au dernier championnat du monde, il n'a apparemment pas été contrôlé positif, mais on peut émettre des doutes, quoi.
Donc c'est toujours, malheureusement, c'est toujours là, comme dans plein d'autres sports d'ailleurs, malheureusement.
Voilà, je pense que ce qu'il y a de sûr, c'est qu'au niveau français, tout le monde est propre.
Ce qui est une très bonne chose.
Mais au niveau justement du dopage, c'est dans la préparation en fait que le dopage peut être exister. Parce qu'en fait, le dopage va vous permettre d'être plus performant en quoi ? Parce que pour soulever, c'est la masse musculaire.
Charge d'entraînement.
Voilà, c'est... mais donc à l'entraînement, pas en compétition. Je prends un exemple tout bête. Le plongeon. Le plongeon, donc, bon, c'est un domaine que je connais bien. Il y a du dopage. Et en fait, les athlètes prennent ce qu'on appelle des relaxants, etc., pour pouvoir justement être beaucoup plus...
On n'est pas dans le même style de dopage. Là.
Voilà, mais justement, lors de la compétition, là, pour vous, c'est plutôt non, dans la préparation.
Mais dans la préparation, si quelqu'un se dope dans la préparation, les effets dopants, ils se trouvent au niveau du résultat antidopage. Donc, tu ne peux pas te doper à l'entraînement et puis le jour où tu vas faire une compétition, être plus dopé. Donc tu vas subir les conséquences au niveau du résultat.
Sans compter aussi, par exemple, et je vais te parler d'un cas que je connais bien, puisque c'est le mien, d'accord. Il m'est arrivé, moi, pour diverses raisons, une période de ma vie, d'utiliser des produits qui étaient reconnus à l'étranger et interdits en France. La créatine, en l'occurrence, c'est rien, la créatine. Sauf que ça te permet d'augmenter tes charges de travail. Donc forcément, le résultat, si tu augmentes tes charges de travail et la cadence de travail, etc., ben forcément, tu ne peux pas considérer que c'est du vrai dopage le jour de la compète.
Oui, parce que mais, tu ne t'en prends pas le jour de la compète, mais tu en prends
mais,
avant.
Mais la période pendant laquelle tu as pris de la créatine, ben forcément, elle te permet de passer des caps, de passer des poids, en l'occurrence en haltérophilie, mais dans d'autres sports aussi, hein. Moi, je te parle d'un truc qui date d'il y a 15 ou 17 ans maintenant. C'était vraiment de la créatine. C'est un truc qui te fait pisser rouge fluo et qui te permet de forcer un peu plus longtemps. Mais
je crois qu'après, tu n'as plus de cheveux sur le caillou. Tout ça.
T'as la barbe blanche aussi. Non, mais voilà, tout ça pour dire que ça existe malheureusement et ça n'existe pas que dans...
Les athlètes de l'équipe de France qui se doperaient prendraient le risque d'être contrôlés inopinément, c'est-à-dire que ce qui se passe, quoi. Donc il y a des contrôles inopinés et donc risqueraient d'avoir... Parce que maintenant, c'est sévère, je crois que... Avant, c'était 2 ans de suspension pour un cas de dopage. Maintenant, je crois que c'est 6 ans ou 8 ans.
C'est 4, ouais. Mais à titre d'exemple, notre champion, donc Anthony Coulet, qui est revenu ces jours-ci au niveau du club, puisqu'il vient de passer le championnat du monde, a été contrôlé chez lui à 6h du matin. C'est mardi ou mercredi.
Ah bon. Suivi longitudinal.
Suivi longitudinal, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle le suivi Adams. Enfin, maintenant, c'est tout ce qui est sportif de haut niveau, où à toute heure de la journée et durant toute l'année, ils peuvent être contrôlés. Donc
ouais, tu peux être géolocalisé à n'importe quel moment, tu dois donner ton planning à l'avance,
etc. Il faut donner son planning à l'avance. C'est-à-dire que nous, quand on part en déplacement, ils savent qu'Anthony Coulet va à tel hôtel, sur tel lieu de compétition. Et là, en l'occurrence, ils savaient qu'il rentrait à son domicile. Donc, à 6h du matin, ils sont allés à son domicile. Il a été contrôlé, ils sont repartis.
Le seul truc, et après on va arrêter avec le dopage, parce que c'est pas l'objet de votre présence, mais ce que moi je trouve problématique, c'est qu'en France, on veut toujours laver plus blanc que blanc par rapport aux autres nations qui sont souvent un petit peu moins regardantes. Et ça explique que des fois, on était un petit peu à la rue au niveau des résultats. Mais parce que
c'est évident, hein.
Parce que on le voit dans le vélo, par exemple, où... On va parler du vélo, par exemple, où les instances font super gaffe au dopage pour les cyclistes français. Mmh. Et les contrôles toute l'année. Alors, en plus, il y a la FLD, la machin, le truc. Il y a l'agence mondiale. Enfin, et finalement, les cyclistes français sont peut-être 3 fois plus contrôlés qu'un cycliste hollandais ou allemand ou américain, par exemple. Et du coup, ça crée un déséquilibre. C'est pareil. Dans le vélo, j'imagine en haltérophilie, en athlée, etc. Quelque part, c'est dommage que tous les pays ne se mettent pas à...
Ouais, mais après, tu as les intérêts, les lobbying.
Bien sûr,
les lobbying, il ne faut pas se leurrer. Les pharmaciens, ils n'ont plus de travail sinon.
Et puis, il y a des nations comme la Chine, puisque j'ai dit que le pays le plus performant en ce moment, c'était la Chine. C'est parce que nous, en France, on doit avoir à peu près 5 000 compétiteurs. Mmh. 5 000 compétiteurs. En Chine, ils ont 1 million de compétiteurs.
C'est énorme.
Alors, ce qui fait que... Et là où ils sont forts, c'est que dans chaque catégorie, ils sont capables peut-être d'avoir 10 athlètes d'être au niveau mondial. Donc après, ils peuvent les préparer comme ils veulent. Au dernier moment, avant de partir au championnat du monde, ils vont les contrôler. Celui-là qui passe, il y va. Celui-là qui ne passe pas, il reste à la maison. Mmh. Alors que nous,
non, on, pas possibilité
on en a
de qu'un faire.
Ou deux.
Mmh, c'est ça.
Voilà.
Bon, allez, le débat est clos. On fait la pause musicale et on continue de parler altéro. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Remember the heat, yeah. That's keeping you warm, saying bye.
Sport sur RTVFM.
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 Voilà, après cette petite intermède musicale, nous revoici dans les studios pour parler d'haltérophilie. Une autre question souvent qu'on se pose, alors est-ce que c'est une réalité ou pas? Est-ce que pour être un bon haltérophile, il faut être petit? Parce que j'ai regardé des compétitions d'haltérophilie, les grands, ils sont pas très nombreux.
Le champion du monde actuel géorgien, il fait pratiquement 2 mètres.
Ah ouais,
ouais.
Donc en fait, le fait de voir des haltérophiles petits, c'est une idée reçue. Je suis pas le seul à le penser quand même.
Si, si. Je, Oui, peut-être parce que c'est quelque chose. Parce qu'avant, l'haltérophilie était basée uniquement sur la force. Mmh. Donc, les petits trapus avaient plus de possibilités, de capacités, davantage que les grands longilignes.
Et oui.
Maintenant, l'haltérophilie est devenue un sport de vitesse. Parce que l'haltérophilie est un saut en hauteur avec une charge, avec une, un moyen de passer sous la charge. Donc, c'est ce n'est plus la force qui est la qualité principale de l'haltérophile, c'est la vitesse. Partant de là, un grand avec des segments, des leviers importants aura plus d'avantages encore qu'un petit.
C'est vrai qu'on a tous en tête, je parlais des Bulgares tout à l'heure, mais les mecs dans les années 80, là, on les voyait, ils mesuraient 1m12, ils étaient aussi larges que hauts. Les Turcs, c'était pareil. Quoi.
Et c'est pour ça que j'ai pensé que les Chinois étaient devant parce qu'ils étaient petits.
Mais il y a une Chinoise qui est championne du monde d'haltérophilie, une Chinoise, dans la plus haute catégorie, quoi, chez les plus lourds.
Mmh.
Bon, c'est sûr que les Asiatiques, ils sont davantage, petits que les Russes, par exemple, mais ils sont présents dans toutes les catégories quand même. Hein.
Après, je pense qu'on a un effet médiatique où souvent, à la télévision, on voit où les petites catégories ou les très grosses catégories.
Ouais.
Mais toutes les catégories intermédiaires qui ressemblent à... On ressemble à des athlètes dans les catégories intermédiaires. C'est-à-dire qu'on a des athlètes à 85-90 kilos, sculptés, mais ça c'est vrai que médiatiquement, on le voit pas trop.
Mmh. Ouais, et puis médiatiquement, en plus, on voit beaucoup moins la d'haltérophilie, par exemple. Encore une fois, moi j'ai 52 ans... Je me souviens, il y a 30 ans, on voyait à Stade 2, par exemple. Alors, il y avait Fula, qui était un ancien haltérophile, me semble-t-il, c'est ça ? Où lui, ben, forcément, il mettait la lumière sur l'haltéro, plus que n'importe quel autre...
Ah, Jean-Pierre n'est pas tout à fait d'accord avec toi.
En tout cas, il en parlait, plus que... En tout cas, aujourd'hui, on n'en voit plus.
Il en parlait un petit peu, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Mais je pense que, issu du milieu haltérophile... Il n'a pas trop défendu l'haltérophilie. D'ailleurs, il a fait la gymnastique, il a commenté la gymnastique, il a commenté la natation,
ouais,
il
exact.
A commenté beaucoup de sports.
Mais là aujourd'hui, on n'en voit quasiment plus d'haltérophilie.
Alors,
on en voit qu'aux Jeux Olympiques.
Ou sur l'équipe 21, sans faire de pub.
Voilà. Cette année, il y a une chaîne basique.
Je vais citer.
Non, mais
donc,
tu peux le dire, c'est l'équipe. Hein.
L'équipe 21 de l'équipe qui a fait voir les championnats du monde.
Ouais.
Sinon,
ouais.
Avant, il fallait être sur.
Je ne sais pas si on.
Bah, sur les chaînes câblées, voilà. Bein Sport, Canal Plus.
C'est la première fois où sur une chaîne gratuite, on va dire.
RMC Sport.
On a de l'haltérophilie. Et d'ailleurs, il y a eu un impact où ils en ont parlé donc, lors de la diffusion, où ça a fait une très belle audience. Donc pour nous, c'est la première année. Alors, il passe de l'haltérophilie, alors je fais peut-être le lien, et du crossfit. Et c'est vrai que pour nous, le crossfit est devenu une manière de dépoussiérer l'haltérophilie.
C'est-à-dire... Oui, parce qu'il y a des mouvements haltérophiles.
Il y a des mouvements haltérophiles dans le crossfit, oui.
Mm-hmm. Et donc, comme c'est un petit peu venu des États-Unis, que c'est une discipline qui prend de l'ampleur de manière extraordinaire, et qu'on est la discipline phare de cette activité... Ben, il se trouve qu'on a dépoussiéré l'activité.
Et du coup, ça ramène un petit peu des gamins dans les salles.
Exact. Des gens qui ont de très bonnes qualités physiques et qui font du crossfit, ils découvrent l'haltérophilie parce que nous, ils viennent chez nous pour avoir un plus technique et du coup, ils se prennent au jeu.
À partir de quel âge, justement, on peut commencer... À l'école d'haltérophilie, je veux dire, mon gamin, par exemple.
Alors, moi, par exemple, j'ai mon fils qui a 9 ans. Alors, il pratique pas l'haltérophilie de manière régulière, mais il fait l'haltérophilie. Alors, pourquoi ? Parce qu'à 9 ans, par exemple, on parle d'éducation posturale.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que nous, on a du matériel adapté. On a on a du manche à balai. On a des barres qui pèsent 2 kilos. Alors, quand on les voit soulever, on a l'impression que c'est des barres d'adultes, mais pas du tout. Donc on peut avoir 2, 3, 4, 5 kilos et finalement c'est pas plus lourd qu'un sac d'école. Sauf que nous on apprend à soulever la charge correctement avec un dos plat, avec une posture, etc.
Mais justement, on va parler justement de tout ce qui est posture parce que c'est important. On fait la pause musicale et on se retrouve juste après.
C'est pourquoi je fais comme si rien au monde m'était-tu.
Parlons sport sur RTVFM.
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 Voilà, mais écoutez, si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus sur le 102.2. Nous sommes en direct depuis le studio de Carpentrasserre. Et j'arrive parce que c'est la question que je voulais poser à Valérie, mais elle est en communication téléphonique avec Jérôme Alonso, on en parlera juste après. On peut nous réécouter quand, dis-moi?
Mercredi matin à 6h30.
Et puis?
Et puis quand tu mettras le podcast en ligne, si tu le mets
voilà.
En temps et en heure,
c'est ça, c'est-à-dire comme à partir d'habitude. Ben quand c'est l'haltérophilie, je le mets toujours en heure parce que j'adore cette discipline.
D'accord, ok, ben voilà. Alors, sinon c'est à partir du mercredi après-midi.
Oui, mercredi après-midi. Après, c'est juste l'année qui peut changer.
Ouais.
Voilà. Donc, oui, je disais, Valérie, t'as téléphone, parce qu'on devait avoir un duplex téléphonique avec Jérôme Alonso, l'entraîneur de l'équipe première du RCC 13.
Le co-entraîneur,
oui, c'est vrai, ils sont deux.
Avec Gaël Talek.
C'est ça, Gaël Talek. Donc, pour le match d'hier, il y a un petit problème de duplex, donc on est en train d'essayer de régler ça. J'espère qu'on pourra l'avoir d'ici la fin de l'émission. Pendant ce temps-là, on va continuer avec l'haltérophilie. On parlait de la taille au départ, et c'est vrai que, pour en terminer, on parle des gymnastes. Souvent, les gymnastes, elles sont petites, et automatiquement, c'est dû justement aux charges d'entraînement, aux différentes postures. Et je me suis dit, vu qu'on commence l'haltérophilie jeune, il y a du poids sur les épaules, et que ça pouvait jouer sur la croissance.
Donc, effectivement, on parle de fréquence d'entraînement quand au niveau de la croissance, des problèmes de croissance. C'est vrai qu'en gym, je pense qu'à un certain niveau, très jeune, on s'entraîne 2 à 3 fois par jour.
Ouais, 5-6 ans.
Voilà, donc ça a des incidences normales. Alors, c'est pas la discipline en elle-même, je pense, mais c'est la pratique de haut niveau, la fréquence d'entraînement. En haltérophilie, c'est pareil. Sauf que nous, on n'a pas cette notion d'entraînement très dur, très jeune. Donc déjà, un jeune de 9, 10, 11 ans qui s'entraîne 2 fois par semaine ou 1-2 fois par semaine, avec des charges modérées, avec une technique appropriée, il n'y a aucun problème de croissance. On a des jeunes qui ont débuté l'haltéro à 10 ans, 11 ans et qui mesurent au club 1m95, 2m. Il n'y a aucun problème de croissance.
Tu aurais dû aller faire de l'haltérophilie quand tu avais.
Ah ouais, avec mes 1m75, je fais petit par rapport à tout ça. Et ensuite, il y a une autre question par rapport justement à la santé et tout ça, c'est que le mal de dos est devenu la maladie du siècle. Est-ce que le fait de soulever des barres comme ça risquent pas justement d'exacerber un problème de dos? Ou est-ce que vous, en tant que sportif de haut niveau, au bout de 15-20 ans de pratique, vous n'avez pas des problèmes de dos?
Absolument pas. Je pense que c'est le phénomène inverse. Puisque si on met de la musculation autour du rachis, eh bien on se protège le dos avec une posturale correcte, c'est-à-dire le dos plat. Ça ne peut qu'être bénéfique. Moi, j'ai commencé l'haltérophilie quand j'étais déjà senior. J'avais mal au dos.
Même au contraire, peut-être à ce moment-là. Et c'est que, comme tu disais, c'est que vous travaillez la posture.
Bien
donc,
sûr.
Vous savez, vous êtes capable de porter.
J'ai
des
aujourd'hui
charges.
75 ans, je me suis beaucoup entraîné. Je n'ai pas mal au dos.
Donc, en fait, on a des problèmes de dos ou on risque d'avoir des problèmes de dos. Ben, on a tendance à vous orienter les enfants ou les adultes vers chez vous alors.
Ah ben on pourrait, oui, tout à fait.
Pour ce qu'on
tout
appelle les gestes et postures.
Exactement.
C'est rien de plus que du gainage. Quand on parle de gainage, c'est de mettre du muscle autour du squelette. L'haltérophilie, c'est le sport gainant par excellence parce qu'on met du muscle, on met du beau muscle en plus, on met pas du muscle n'importe comment comme on en voit aller pousser dans les salles là. Et ben forcément, on voit pas ou peu d'haltérophiles, on n'entend pas parler d'anciens haltérophiles, et Jean-Pierre est là pour me faire mentir, mais des mecs qui sont tordus, et, au contraire, les types se portent plutôt mieux que, qu'un mec qui n'a pas fait de sport, par exemple.
À la salle, nous avons l'entraîneur du club qui s'appelle Pierre Gourier, donc le papa de Benoît, qui a mon âge à peu près à 2 ans près, qui a été l'homme le plus fort de France de tous les, jusqu'à il y a peu de temps, puisque c'est maintenant Anthony qui l'a détrôné. Mais je le côtoie tous les jours, il n'a pas de problème de dos.
Ben, tant mieux.
Et justement, alors, puisque tu parlais de, du papa de, d'Anthony, est-ce que...
Non, le papa de Benoît.
De Benoît. Est-ce qu'il y a de la génétique là-dedans? Est-ce que, comme dans certains sports, par exemple, il peut y avoir un facteur génétique? Parce que là, on le voit, vous filez le bébé de génération en génération, non?
Oui.
Alors moi, sur la génétique, je ne peux pas trop parler, hein, parce que pour ceux qui connaissent mon père, c'est un beau bébé d'un mètre 80, 105 kilos. Ouais. Moi, je suis plutôt le gabarit de la maman. Donc, c'est que...
Non, mais par contre, au niveau de la capacité à fournir tel type d'effort, par exemple...
Ou même au niveau des fibres musculaires, parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'il faut être plus dynamique que musclé.
Bien sûr,
tout à fait.
Parce qu'on voit dans certains sports...
Benoît est modeste, mais Benoît a été à l'INSEP, a failli être international, même il a été international, champion de France. Et donc, avec 110 kilos, pour un poids de corps de 60 kilos, 110 kilos à arracher, 130 à le projeter, il y a beaucoup d'athlètes confirmés actuels qui aimeraient faire ce qu'il a fait.
Félicitations, Benoît.
Merci.
Et à partir de quel âge on peut... Alors je ne parle pas du club, on en parlera juste après du club, mais au niveau national, est-ce qu'il y a des réglementations sur l'âge minimum de pratique de l'haltéro?
Alors la compétition est ouverte, alors on va dire que la catégorie minime est ouverte maintenant à l'âge de... Allez, entre 10 et 11 ans. Voilà. Avant, on ne parle pas de compétition. On peut faire de la démonstration, mais on peut vraiment...
Donc là,
faire
tu parles, voilà, mais tu parles de la compétition.
Oui.
Mais quelqu'un, on va dire, il y a un enfant ou un parent d'enfant qui nous écoute.
Oui.
Et son fils, ah, mais j'aimerais bien faire l'haltéro. Il a 3 ans, est-ce qu'il peut?
3 ans?
Ouais.
Non, parce que l'haltérophilie est un sport...
Bah, excuse-moi, c'est un exemple, 3 ans, je ne peux plus dire 5 ans.
même à 5 ans, parce qu'on ne joue pas à l'haltérophilie. Et à cet âge-là, on a envie de jouer. Donc c'est ce qui est compliqué avec les tout jeunes enfants, c'est parce que il faut avoir les postures, il faut s'appliquer,
beaucoup de concentration quoi.
Donc après les enfants trop jeunes, ça fait pas parce qu'ils y prennent pas de plaisir au départ.
C'est un peu comme la natation par exemple, c'est sport besogneux on va dire.
Voilà.
Alors que moi j'entraîne une équipe de rugby, par exemple, les moins de 12, eh ben, on est encore quelque part un petit peu dans le jeu. Alors que dans l'haltérophilie, comme disait Jean-Pierre, on ne joue pas, on est obligé de faire les choses correctement si on ne veut pas se péter, si on veut juste arriver à maîtriser les mouvements. Alors que dans les sports comme le rugby, le hand, le foot, etc., il y a une partie ludique où, après avoir beaucoup travaillé, ben, on peut... les faire s'amuser, les faire jouer.
On joue au rugby,
on joue au foot. Ouais, exact.
On joue pas à l'haltérophilie, voilà.
Exact.
Oui, en plus, il y a des poids qui sont lourds, donc tu peux te blesser quand même.
Bien sûr.
Alors jeune, on parle pas de poids lourds, mais il y a une attention un petit peu à avoir. Alors, on a des dérivatifs, on a des jeux, on a ce qu'on appelle les activités de motricité, mais pour combler une séance à 5 ou 6 ans ou 7 ans, voilà, 8, 9 ou 10 ans, ça commence à être bien. Avant, c'est un petit peu jeune.
Et donc, au niveau du club, vous les prenez à quel âge?
On a des jeunes de 9 ans.
9 ans?
Oui.
Voilà, donc ça, c'est minimum.
Je pense que Benoît a commencé à peu près à 8-9 ans.
9 ans. 9 ans.
Et le fils de Benoît, 9 ans, il y est déjà, donc génération 3.
Génération 3, c'est ça.
C'est fou, hein? Et toi, ton fils, c'est le rugby?
Ben ouais, génération 3. Génération 3 aussi.
Et au niveau justement du calendrier national des compétitions, comment ça se passe? C'est toute l'année ou comme tous les sports, il y a une pause en juillet-août?
Alors au niveau national, on va dire que les compétitions démarrent en octobre pour finir en juin. Donc, première partie de saison, énormément les compétitions par équipe. Et on finit par les compétitions individuelles et les finales nationales au mois de juin. En été, il y a plus certaines compétitions internationales, mais on peut considérer qu'en gros, il y a une trêve estivale.
On en profite pour faire du foncier, c'est ça ?
Et on en profite pour s'entraîner, faire du foncier, tout à fait, c'est ça.
Peut-être que Théo va envoyer la pub. Non,
ouais, allez, on va faire une petite pause musicale.
Non, pas de...
On continue ?
Pas de pause, allez, on va continuer.
Allez, on continue. Donc, au niveau des... On parlait du problème de dos, je reviens encore sur la même, toujours la même chose. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, par contre, quelques contre-indications à la pratique d'haltéro ?
Mis à part une pathologie sévère constatée au niveau médical.
C'est-à-dire une pathologie au niveau du dos ?
Oui, voilà. Après, nous,
par exemple. Scoliose, par exemple ?
Alors, scoliose, c'est très bon exemple. On a eu souvent des athlètes qui ont pratiqué l'haltérophilie pour corriger cette scoliose.
Ah oui, donc c'est bon de pratiquer l'haltéro pour...
Et qui sont devenus champions de France et qui ont fait des compétitions internationales. Donc,
C'est fou les idées reçues.
On connaît plein de sports où plein de champions qui ont attaqué un sport gamin, par exemple, pour un coureur à pied dont le nom m'échappe, mais qui avait commencé la course à pied parce qu'il avait de l'asthme et qui avait besoin d'oxygéner. Le mec, il est devenu champion du 5000 ou du 10000 ou de cross-country. Un mec de la scoliose qui démarre l'haltérophilie pour corriger et qui devient champion. C'est souvent... au départ, le sport, c'est aussi un peu ça, quoi. C'est générateur de bonne santé, de bien-être, de soins. Mais je ne suis pas complètement étonné qu'il y ait des gamins qui viennent se soigner, pour ce qu'on disait tout à l'heure d'ailleurs, pour l'histoire de gainage, l'histoire de musculature, de posture, et pourquoi pas.
Et donc, à 9 ans, on commence, on va dire, les entraînements, la compétition dans la foulée. Et au niveau des catégories, c'est pareil, c'est que les autres, c'était minime, cadet, junior.
Voilà, maintenant, on passe avec les formules des U. Donc,
c'est partout. Hein.
En français, on dit M.
Voilà. Donc, on passe là-dessus. Mais oui, tout à fait. Donc, on est sur un petit peu les mêmes logiques que les autres disciplines. Sauf que nous, en plus de la catégorie d'âge, on a les catégories de poids. C'est-à-dire qu'un petit de, on va dire, d'une dizaine d'années, un enfant d'une dizaine d'années qui pèse une quarantaine de kilos n'aura pas comme adversaire un enfant d'une cinquantaine de kilos, etc. etc. Voilà. Et il y a une différenciation entre les filles et les garçons.
Et avant chaque compétition, c'est un peu comme un boxe, c'est-à-dire passage sur la balance ?
Alors oui, mais nous, ce n'est pas la veille ou deux jours avant, c'est 2 heures avant.
Oui, mais chez les petits, c'est 2 heures avant aussi. Hein.
Non.
Chez les petits, en boxe.
Hein. Ah, en boxe, d'accord.
Voilà. Mais par contre, effectivement, chez les compétiteurs, souvent, c'est la pesée le vendredi pour la compétition le samedi. Donc après, il y a un rebond du poids qui est, on en parlait justement avec... Sébastien Sénat, justement, par rapport, on va dire, aux rebonds de poids qui peuvent être des fois énormes, hein, jusqu'à 7, 8, 9 kilos. Hein.
Alors que nous, on ne l'a pas. À la rigueur, on a, on va dire, 500 grammes ou 1 kilo suivant. Mais 2 heures, c'est court. Voilà. 2 heures, nous, c'est court. Pas
un mec peut s'être préparé pendant des mois, par exemple, et arriver à la peser
et pas faire le poids.
Et du coup, est-ce qu'il a possibilité de s'inscrire, du coup, dans une catégorie inférieure ou parce que...
Ou supérieur. S'il était à McDo avant, c'est pour ça. Ou à Quick. Ou à Pizza Hut.
Ou le mec qui est engagé, je dis une connerie, mais en moins de 70, par exemple. S'il fait 71, il peut...
Ça n'est pas des compétitions. Il y a certaines compétitions, il pourra participer à la catégorie supérieure. Mais s'il est engagé uniquement dans cette catégorie, il ne fait pas le poids, il ne tire pas.
Donc, en fait, il est venu pour rien.
Il est venu pour rien.
Comme n'importe quel... si, parce que chez les boxeurs, ils ont la possibilité de se reposer. Donc, il y a certains, ils vont courir, ils vont manger. Voilà,
La pesée dure une heure.
Donc en une heure de temps,
il faut que tu puisses faire le poids de corps demandé.
Ça veut dire sauna, ça veut dire machin.
Ça veut dire ça, oui.
Et ça veut dire qu'au bout d'une heure, tu sors complètement rincé de ton jogging, de ton sauna et de ton machin pour faire le poids.
C'est pas un avantage, bien entendu. Quoique, moi j'ai connu en 1981, au championnat du monde qu'il y a eu en France à Lille, un athlète français qui s'appelle toujours Daniel Sonnet, et qui le jour du match, à 8h du matin, était dans le sauna, parce qu'il avait sûrement encore 2 ou 3 kilos à perdre, qui restait toute la journée dans le sauna. Et le jour du match, il a fait 150 kilos à l'arraché, en catégorie 67 kilos 500, oui, et qui a été champion du monde de l'arraché ce jour-là.
Ouais, Daniel Sonnet, c'est le mec dont tout le monde connaît le nom. Enfin, les gens qui ont une vague idée de...
Un des seuls qui a fait des, dans les 80, qui a fait des médailles, qui a fait une médaille olympique récupérée parce qu'il y avait un cas de dopage de quelqu'un qui était avant lui, quoi.
Eh ben, allez, on fait une petite pause, maintenant on peut la faire. Donc, pause musicale.
Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé, repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais, je souffrais. Mais t'as laissé ton odeur sur les bras, sur les bras. Je donnerais tout pour être dans tes bras, dans tes bras. Et j'ai tant de te haïr, mais la colère.
Sport sur RTVFM.
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 Voilà, nous sommes de retour dans les studios avec nos amis de l'EEAR Monteux, le club d'haltérophilie, avec Jean-Pierre Brunet pardon, et Benoît Gourier. Rebonsoir, messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc on a parlé de l'haltérophilie, ça permet de bien dégrossir justement cette discipline qui est discipline olympique, mais qui n'est pas forcément très très connue, et c'est un petit peu dommage parce que ça permet de régler des problèmes de santé, on en parlait tout à l'heure, des problèmes de dos, les problèmes de scoliose et tout ça. Et par contre, Monteux est un des meilleurs clubs français, hein, dans le top 9, hein, on disait ça tout à l'heure, on va en parler maintenant. Et au niveau de la région PACA, c'est le meilleur club PACA ?
Oui, c'est le club qui a le plus de résultats, effectivement, au niveau PACA, oui, tout à fait.
Alors, Valérie est en train de me dire qu'on va tenter un direct, parce que tout à l'heure, je parlais qu'il y en avait Jérôme Alonso, le co-entraîneur du RCC 13. Alors, Jérôme, est-ce que tu nous entends?
Allô, Jérôme?
Oui, je vous entends.
Non, ça n'a pas...
Non,
non, il non, y a un souci, donc...
Non, c'est pas grave.
Bon, on va essayer autre chose, alors.
C'est pas grave. On va reprendre... voilà, on a repris l'antenne. Donc, meilleur club, donc, en top 9, 9 meilleures équipes. Alors, quelles sont les autres équipes?
Alors, du top 9, donc, à l'heure actuelle, on a Saint-Marcellin, on a Clermont-Lérault, on a Neuilly-sur-Seine... On a le club de Rosendal,
VGA Saint-Maur,
Comines et Quimper. Voilà, alors je ne sais pas si on arrive à 9.
Il en manquerait un normalement.
Alors,
à part Monteux.
Monteux.
Et puis Monteux.
Non, non, mais.
La région parisienne, elle a commencé déjà.
Bon, ça. C'est pas.
De toute façon, voilà. Donc en gros, on se déplace beaucoup en région parisienne en ce moment, Bretagne, Sud-Ouest. Voilà, donc ça tourne un petit peu au gré des descentes et des montées.
Ce week-end, on va à Quimper.
Ah, ça fait quand même des jolis déplacements pour deux jours, c'est ça, les compètes, c'est sur deux jours?
C'est sur une après-midi, en fait. C'est sur, donc on monte la veille, bien entendu. La compétition a lieu le samedi. Alors, c'est défini par la réglementation à 17h, le samedi à 17h. Et grosso modo, on finit le match vers 19h30.
Donc, 9 équipes, 9 manches, c'est ça? 9 tournois?
3 implantations de 3 matchs, donc ce sont des triangulaires.
D'accord.
Voilà, donc là, on va à Quimper pour rencontrer l'équipe locale et Saint-Maur-des-Fossés, une équipe parisienne. Ah, je
connais bien. D'accord. Et après?
Et après, il y a deux autres lieux de compétition et on a une formule un petit peu comme au football où la première équipe marque 8 points, la deuxième 6 points et la troisième 4 points. Et donc, à l'issue des 4 journées, on regarde le nombre de...
Et à la fin du championnat, vous avez rencontré chaque équipe
exactement
le même nombre de fois.
Et il y a des phases finales ou pas?
Non, 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 il n'y a pas de phase finale. C'est 4 tours et à l'issue des 4 tours, on fait un championnat.
Un classement.
Et donc là, vous êtes au milieu pratiquement, hein, c'est ça?
Oui, alors donc on a 4 journées, on a passé
2
journées. Oui.
Voilà.
On va faire la 3e.
Bon, et au bout de 2 journées, donc à la mi-temps, vous êtes à...
On est en tête du championnat, tout simplement.
Et c'est la première année que c'est comme ça?
Alors... Début des années 80, ça se produisait un petit peu plus. Avec
Donc depuis les 10 dernières années, c'est la première fois.
On a fait un podium en 2004. On a fait beaucoup de places d'honneur 4-5e. Mais être en tête à mi-parcours du championnat, ça fait 30 ans qu'on ne l'avait plus fait. Oui, tout à fait.
Ah oui, chapeau. Et quelle est l'équipe qui vous fait le plus peur?
On l'a passé. Mais c'était Saint-Marcellin cette année.
Ah oui?
Ouais. Mais
c'est les champions de France en titre.
C'est ça. Mais là, on va rencontrer les vice-champions de France à Quimper.
Ah.
Donc, il se trouve que si jamais on arrivait à faire la sensation de gagner le match de nouveau...
Vous êtes bien parti pour...
Surtout qu'on reçoit chez nous au dernier tour. Donc, il y a des chances de faire des très belles choses. Tout dépendra du résultat samedi soir, tout à fait.
Et le bilan de l'an dernier?
L'an dernier, alors on a fait une très belle saison où jusqu'à la dernière barre, on était sur le podium. Et il se trouve que sur la dernière barre, notre athlète se blesse. Ah. Donc, à comptabilité 1-0. Donc, on se retrouve 6e du championnat. Voilà.
Pour une seule barre pour...
Oui.
Ça peut descendre vite, alors?
Ah ben, le classement est très serré. Donc,
C'est-à-dire que l'athlète qui a de Monteux, qui tirait le dernier, le plus fort, à son premier essai, s'est fait une luxation de l'épaule. Donc...
Ça arrive souvent, ça?
C'est rare. C'est la première fois que ça nous arrive en 35 ans.
C'était pas le moment de monter sur le podium, en fait.
C'était pas le jour J.
Et heureusement, on était troisième. Et donc, on se retrouve, heureusement, parce que si elle avait été 10e, on serait pas en élite, quoi.
Ben oui, c'est
donc,
ça.
On est resté 6e.
Il se trouve qu'on avait cumulé des points d'avance. On avait bien fonctionné la saison dernière, pareil. Donc, ça nous laissait une marge de manœuvre pour la dernière journée. Mais c'est...
C'est voilà. Foutu comment, montée-descente, pareil que dans n'importe quel sport?
Oui, donc le dernier descend automatiquement,
ouais.
L'avant-dernier barrage avec le second, et l'avant-avant-dernier barrage avec le troisième.
D'accord.
Voilà.
Ouais, c'est quand même assez compliqué quand même le classement.
Ouais, c'est pas très très compliqué, mais en tout cas, ça permet de découvrir un sport dont on parle peu finalement. Alors, on sait qu'il y a un club à Monteux, mais ça manque de lumière.
Pour faire un petit historique quand même, que le club de Monteux est issu de Carpentras. Puisque le club, le EAR qu'on a dit au début, c'est-à-dire l'Espérance et l'Étoile et l'Aurore réunis, ont 130 ans d'existence à Carpentras.
Et pourquoi est parti à Monteux?
on est parti à Monteux, on va dire contraint, forcé, parce que notre salle d'entraînement était aux Amandiers, et que l'environnement des Amandiers correspond toujours pas plus à la pratique d'une discipline sportive. Quoi.
De haut niveau.
Et de haut niveau.
Et depuis 130 ans, vous êtes dans l'élite depuis combien de temps? Vous l'avez toujours été?
L'élite, non, pas depuis 130 ans, bien sûr. Mais je pense que depuis les années, on va dire, 78 et 80, la venue de Pierre Gourier, de Michel Reynaud, de Robert Jouan, ont fait que, depuis cette date, le club de Carpentras est maintenant Monteux et dans l'élite nationale, oui.
Et donc le top 9, ça fait combien de temps que vous y êtes?
Alors on est monté, la dernière montée qu'on avait faite, c'était en la saison 96-97. Donc c'est et depuis on y est, oui.
Ouais, ben l'exemple de longévité quand même, 20 ans en première division sans descendre, c'est plutôt... Dans la région, il y a peu de clubs qui ont évolué, ça, oui. Je crois même que vous êtes le seul, je pense pas me tromper, mais de clubs tout sport confondu qui a évolué en première division de manière ininterrompue depuis 20 ans, je crois même pas l'Aviron, peut-être la SNA. Et il faudrait vérifier, mais en tout cas, vous devez être deux ou trois, quoi, peut-être deux, maxi. Bravo, belle réussite. Merci. Pour le coup. Non, mais c'est toujours bon signe, c'est preuve de bonne santé, de bonne gestion, de bonne formation aussi, d'arriver à pérenniser des générations comme ça sur 20 ans ou peut-être même 30 ans, espérons-le.
Après, je crois qu'on le doit beaucoup à trois dirigeants. Bon, Jean-Pierre, qui a passé la maille à 2 ans, mais qui a été 45 ans président du club et qui fonctionne en trinôme avec Pierre et Martine Gourier et qui, depuis les années 79, tiennent le club, qui porte le club. Hein. Voilà, le club, il ne serait pas à l'heure actuelle là où il est s'il n'y avait pas ce trinôme. Ouais,
si on n'avait pas été là, peut-être il y en aurait eu d'autres qui auraient fait aussi bien.
Ouais, le fait est que vous étiez là, Jean-Pierre, et pas de façon modestie. En fait, vous avez fait un homme.
45 ans, c'est rare quand même.
C'est du beau boulot.
45
ans de président, 20 ans d'élite. À un moment.
Non, il est toujours là, il est vice-président encore. Hein.
Il fait le job.
Ah, il est costaud. Oui, oui. L'haltérophilie, c'est la longévité. Il y a combien d'adhérents au club?
80 licenciés à l'heure actuelle.
Et par rapport justement à toute cette ancienneté, parce que je pense que c'est quand même un des clubs les plus anciens du Vaucluse, voire peut-être de PACA, voire de France. Ça a toujours été stable?
Est-ce que tu
m'entends? Il y a eu quand même des périodes fast.
Je laisserai Jean-Pierre en parler pour les années, parce que je crois qu'il y a eu un petit creux à un moment donné, mais on va dire que depuis une trentaine d'années, on est entre 60 et 100 licenciés suivant les années.
Voilà, le club est vraiment été dynamique et aussi bien au niveau de performance qu'au niveau de licenciés à partir des années 80, quoi.
Oui.
Est-ce que l'éclairage là des jeux une fois tous les 4 ans, ça ramène un petit peu des gens dans les clubs? Pas assez.
Je pense pas. Ce qui va nous ramener un peu du monde, c'est
l'équipe 21.
L'équipe 21, voilà, tu l'as dit. L'équipe 21 qui ont fait une bonne audience et qui, je pense, qu'ils vont renouveler l'opération de refaire voir les championnats du monde, les championnats d'Europe, peut-être les Jeux.
Et c'est donc surtout une chaîne gratuite, mais donc accessible à tous.
Exactement. Parce que moi, combien de personnes qui me disent qu'ils ont vu l'haltérophilie, ça les a intéressés, qu'ils ont regardé l'haltérophilie? Bon, j'étais un peu surpris, mais bon, voilà, ça c'est une très bonne chose. Et puis deuxième chose, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le CrossFit. Le CrossFit qui est un peu un sport à la mode et qui, parmi ses disciplines, a l'haltérophilie, quoi.
Et puis, en plus, l'avantage, c'est qu'à Monteux, il y a d'excellents champions. On parle d'Anthony, justement, Coulet, qui, faut quand même le rappeler, à 18 ans, a été le premier de l'histoire à soulever 200 kilos, quand même. Donc, c'est pas négligeable. Maintenant, il a 221 kilos. Donc, vous sortez quand même de grands champions. Il y en a eu d'autres?
Oui, on a eu régulièrement depuis les années 80, où donc il y a eu une arrivée d'internationaux.
Ah, Benoît Gourier, c'est ça, le champion aussi.
Son père aussi.
Oui. Ben voilà, tout a vraiment débuté, on va dire, au niveau du, à partir, enfin, en parlant de haut niveau, tout a débuté au début des années 80. Donc Jean-Pierre Bonnet, qui a été médaillé aux France, régulièrement qualifié aux France, Robert Jouan, Michel Reynaud, Pierre Gourier avec 3 sélections olympiques. Et à partir de là, on a eu des tas de sélectionnés internationaux juniors, seniors, régulièrement. Alors c'est par cycle. Des fois, on a 3-4 ans de mou et ça revient. Voilà. Et depuis le début des années 80, c'est vrai qu'on a la chance.
On a eu l'équipe junior à l'époque où Benoît faisait partie de l'équipe, qui a été champion de France junior par équipe aussi.
Ah oui, donc il y a quand même,
c'est même
un beau vivier quand même.
C'est même un peu frustrant. Enfin, moi qui suis issu d'un sport médiatique aussi, le rugby à 13 par exemple, c'est même un peu frustrant d'avoir les résultats que vous avez, d'avoir le club que vous avez et d'être on va dire presque anonyme.
C'est un peu frustrant, je reconnais, surtout
chiant même.
au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans les studios de RTV et on nous pose, parce que c'est normal, il n'y a pas de problème. On nous pose les mêmes questions qu'on me posait il y a 40 ans, parce qu'on ne connaissait pas l'haltérophilie, et on s'aperçoit que 40 ans après, on ne connaît toujours pas l'haltérophilie.
Ouais, c'est vrai.
Voilà.
Ben, totalement. Malgré que ce soit une discipline olympique.
Ça, c'est un peu frustrant, oui. Mais c'est comme ça. Hein.
Parce qu'on n'en parle pas non plus aussi dans les peut-être écoles, dans les établissements scolaires. C'est
peut-être
du
aussi.
Foot,
peut-être
c'est
aussi.
Le tennis.
Et peut-être qu'on ne sait pas bien se vendre aussi. Ça,
peut-être dans les écoles, tu
c'est
devrais.
Ouais.
Ben, c'est un peu comme la fédération. On en parlait il n'y a pas si longtemps que ça. Jean-Yves parlait du rugby à 13. On voit le rugby à 15, le rugby à 13. Le rugby à 15 est beaucoup plus médiatisé que le rugby à 13.
Ils ont su mieux se vendre.
Ils ont raté le virage. Et est-ce que l'haltérophilie, vous n'avez pas été pareil?
Je sais pas.
Non, mais sans aller jusque à une audience nationale, mais par exemple, regarde, on est à Carpentras, on a le meilleur club de France actuellement à 5 km d'ici, et comme dit Jean-Pierre, on en est à lui poser des questions de débutants, parce que on sait pas, on sait à peine qu'ils existent. On a une vague idée maintenant, grâce à Anthony, de temps en temps, il y a un truc dans le journal, il y a un encart gros comme un thème au poste en disant le mec, il va faire les jeux dans 2 ans. Ah ben chouette, bravo. Mais on en est là, quoi. Et j'imagine que c'est frustrant et même rageant, quoi.
Ce qui est un peu qui est frustrant également, c'est qu'on nous pose toujours les mêmes questions. Est-ce que l'haltérophilie n'empêche pas de grandir? Alors que c'est complètement aberrant, parce qu'on a des docteurs qui nous ont suivis et qui ont prouvé l'inverse. Que par l'haltérophilie, ça pouvait faciliter.
Parce que ce sont des idées reçues.
Voilà. Bien sûr, ça pouvait. Tu nous as posé la question, tout à l'heure tu as dit, est-ce que l'haltérophilie n'est pas un sport où il n'y a que les petits trapus qui...
tout à fait.
Alors que c'est complètement l'inverse.
Et moi-même, je me suis jeté là-dedans, est-ce qu'il y a toujours du dopage? Il y a toujours des clichés...
Mais
il y a toujours des clichés autour de l'haltérophilie. Moi ce qui m'importe, c'est pas à la limite les idées reçues. Moi, ce qui m'emmerde, si j'étais à la place de Jean-Pierre et de Benoît, ça serait de me dire, on est le meilleur club de France, là aujourd'hui on est en tête du championnat, et personne ne le sait. Moi je suis très proche du club du SOA, on a été champion de France il y a 3 mois, ça s'est pas ou peu su. Alors que il y a des clubs...
En rugby à 15, Clermont-Ferrand est champion de France. Ouais. Tout le monde le sait.
On était en train de parler de sport, si ça te dérange pas. Non, mais voilà, c'est ça qui est frustrant de déployer autant d'énergie. Alors, je sais bien que vous le faites pas pour la gloriole et vous en foutez, mais quelque part, si en plus du plaisir que vous prenez à former des gamins, il y avait aussi un peu de reconnaissance, ça serait sûrement un plus, quoi.
Mais moi, je dis surtout pour les athlètes, parce que quelque part, bon, pour vous aussi, hein, les dirigeants, mais pour les athlètes, parce que donner tant de son temps, de son énergie...
Et de l'argent, parce que 200 euros pour aller à l'INSEP,
c'est... et ne être reconnu par ses pairs, mais ne pas être reconnu au niveau, on va dire, de la population, hein, c'est vrai, hein, du public, C'est vrai que
sans compter que j'imagine que pour aller chercher des ronds auprès des partenaires, si on parlait un peu plus de vous, et ça serait plus simple d'aller chercher 10 000 chez un gros partenaire plutôt que 20 fois 50 euros ou 20 fois 100 euros. Voilà.
Allez, on fait une pause. À tout de suite.
Sport sur RTVFM.
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 Voilà, de retour dans les studios. Je reviens avec le club Benoît par rapport justement au rythme d'entraînement. Comment ça se passe pour vous, le top, donc l'équipe première qui est en top 9, au niveau de l'entraînement? Comment ça se passe? C'est plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine?
Alors, dans le cadre des athlètes du club, c'est un entraînement tous les jours.
Combien de temps à peu près?
Alors, on va dire de 2 heures d'entraînement par jour. Mmh. Dans le cadre d'Anthony Coulet, qui est international, lui, il est sur 2 entraînements par jour toute la semaine.
Oh, ah oui, c'est énorme.
Ben oui, c'est énorme. Sportif de haut niveau.
Ouais, ouais. Non, mais après, voilà, c'est vrai que ça fait du poids à soulever toute la journée. Et les enfants, par exemple, ils ont combien d'entraînements par semaine? C'est quel jour?
Alors, on n'a pas de jour à titrer, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'école d'haltérophilie comme par exemple le mercredi en début d'après-midi. C'est tous les soirs de 5h à 8h. Mmh. Et en fonction des autres activités qu'ils ont, on adapte les créneaux. Donc en fait, au sein de l'entraînement, on a des groupes débutants, des groupes confirmés, des groupes...
Il y a un entraîneur qui s'en occupe.
Oui, oui, il y a toujours... On a de nombreux diplômés d'État et de nombreux diplômés fédéraux. Donc dans tous les cas, il y a de l'encadrement nécessaire pour accueillir tout le monde, oui.
Ah, ça c'est bien. Comme ça, au moins, les enfants. Parce que, comme on parlait de la technique, de la posture.
Mais c'est encore, c'est encore une fois, c'est justement, l'haltérophilie, c'est un sport ultra exigeant où tu ne peux pas lâcher un gamin en disant bah, tiens, prends des barres, monte-les, régale-toi, progresse comme ça. Mmh. Il faut absolument que, j'imagine, même pour Anthony qui est sportif de haut niveau, ben, y a toujours forcément un encadrement et ne serait-ce que pour la sécurité, ouais, mais, et l'assistance.
Ouais, mais regarde, par rapport à ça, on parlait tout à l'heure du crossfit. Moi, j'en ai pratiqué bon, il y a quelques années. Et
ça
ne
se voit pas du tout.
C'est normal parce que je suis en tenue d'hiver. Mais je te montrerai quand je serai en tenue. Et en fait, il y a des exercices en crossfit, mais on ne va pas forcément mettre l'accent sur la technique. On va beaucoup mettre l'accent, on va dire, sur l'intensité, sur la répétition, pour que ça soit dynamique, efficace. Mais quelqu'un qui va mal porter la barre, ben, on ne va pas forcément lui dire ben, « Non, penche-toi, mets-toi bien. » Voilà, ça sera vraiment plus sur du rythme.
Ouais, et puis il va se péter.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on récupère des gars du CrossFit, parce qu'ils ont bien compris que l'haltérophilie pure que nous pratiquons nous va leur apporter quelque chose.
On voit beaucoup de salles de CrossFit qui s'ouvrent là à droite à gauche, et t'as besoin de rien pour ouvrir une salle de CrossFit où il y a des mecs qui viennent qui se foutent à faire
et c'est
ouais, il faut un
prix.
Peu d'argent
enfin, non, mais attends, c'est hors de prix,
mais ce que je veux te dire, c'est que les types qui sont pas encadrés, eh ben ils vont comme disait Benoît tout à l'heure, ils montent des barres, ils lèvent du poids, ils s'arrachent, ils font des tractions, c'est pas encadré, il y a zéro technique, les mecs se pètent et puis après ils sont presque contents de pouvoir se retourner vers un club d'haltérophilie par exemple pour s'ils ont, en tout cas s'ils ont aimé lever du poids, eh ben pour progresser, pour faire les choses dans les règles.
Et les faire correctement.
Bien sûr.
Mais je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience hein, depuis quelques années des gérants de salles de crossfit hein, qui de plus en plus reviennent sur cet aspect technique.
Ils vous demandent conseil des fois ou pas ?
Pardon ?
Ils vous demandent conseil des fois ?
Oui, tout à fait. Ben, nous, on est en partenariat avec deux salles de crossfit, par exemple, où on va régulièrement un petit peu amener notre technicité. Mmh. Voilà, donc on intervient tout à fait. Je pense qu'ils ont
moins
de conscience et qu'ils sont demandeurs, tout à fait, oui, tout à fait.
Bien sûr, de toute façon, ils ont tout intérêt à ce que ça se passe bien et pour leurs adhérents. Et
pour moi, on va dire un vieil haltérophile, j'ai du mal à comprendre, quelque part, qu'on puisse se donner 100 € par mois pour faire du crossfit, alors que le prix de la licence haltérophile au club est de 100 € par an.
Oui, non, mais c'est pour ça, c'est énorme. C'est énorme le prix. C'est très, très commercial. Hein.
Je pense qu'il y a un effet de mode aussi, où maintenant c'est bien de pouvoir dire ouais, mais moi je fais du crossfit. C'est plus sexy, entre guillemets, de dire moi je fais du crossfit que moi je vais faire de l'haltérophilie. Ça sonne pas pareil.
Ça sonnait pas pareil. Maintenant, ça commence. Parce qu'on voit des jolies jeunes filles qui viennent parce qu'elles font du crossfit.
Et voilà, ça y est, t'as trouvé un nouvel adhérent.
Je veux faire de l'haltérophilie. Alors qu'il y a quelques années en arrière, ces filles-là...
Je vais venir faire un reportage, c'est quand
même... Après, on est quand même sur deux disciplines différentes. Il faut quand même le rappeler, c'est-à-dire qu'il y a un aspect, on va dire, cardio et résistance qui est très poussé dans le crossfit, que nous, on n'a pas. On est beaucoup dans la répétition dans le crossfit. On est beaucoup dans de la répétition de mouvement dans un temps donné, alors que nous on cherche un mouvement à un instant T. Voilà. On a des passerelles, c'est-à-dire qu'on a vraiment des choses communes, mais c'est deux disciplines quand même relativement différentes. Hein.
Donc on va bientôt faire la pause et puis comme ça on en aura fini, parce que c'est vrai qu'on pourrait poser des questions toute la soirée. Juste, je voudrais revenir sur l'équipe première là, sur le top 9. C'est quoi l'objectif cette année ?
Alors l'objectif affiché, c'est le podium. Parce que comme on l'a loupé l'année dernière sur la dernière journée, donc voilà, on a à cœur de faire le podium. Et ben plus si affinité, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein, voilà.
À l'heure actuelle, la première place est totalement abordable.
On vous dira ça samedi soir. Voilà, parce qu'on a notre prochaine rencontre à Quimper. Voilà, ce samedi. Donc, alors pour venir nous voir, ça va être compliqué, c'est à Quimper. Ouais. S'il y en a qui veulent faire le déplacement, avec grand plaisir.
Mais par contre, on donnera les résultats la semaine prochaine.
Et bien sûr.
Ah, pour savoir un petit peu, hein,
pas
parce que ça nous intéresse de savoir un petit peu où vous en êtes. Parce que voilà, ça sera la deuxième équipe qui vous fait le plus peur.
C'est ça. Là, on va rencontrer Saint-Maur-les-Fossés, qui étaient les favoris du championnat cette année, qui ont perdu le titre sur une contre-performance l'année dernière. Donc, normalement, c'était les favoris cette année. Donc, on rencontre le favori. Donc, on va voir ce que ça donne.
Bon, on va vous donner un mot, pas à la radio, de 5 lettres hein, pour ce week-end. Et puis, on va suivre un petit peu comment ça se passe. Vous avez même un site internet, une page Facebook, j'ai vu.
Oui, oui, donc tous les renseignements. Alors, le site va être en construction, donc il est à jour, mais un petit peu moins que le Facebook et Instagram. Ouais, donc, on se met à la mode du temps, ouais, tout à fait.
Nous, on mettra tout ça sur le podcast. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez rester, hein, parce que juste après, on va parler un petit peu des résultats locaux. Il nous restera à peu près 10 minutes pour le faire. Mais ça nous a fait vraiment plaisir de vous avoir parmi nous. Hein. Le meilleur club pratiquement de France d'haltérophilie à RTVFM, ça fait plaisir.
Et bien sûr, ça fait plaisir et ça fait d'autant plus plaisir de parler de sport, de vrai sport, parce que l'haltérophilie, c'est un vrai sport finalement.
Ah oui, ça c'est vrai.
Merci.
Merci.
RTVFM.
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 De retour dans le studio, hein, juste après avoir parlé de l'haltérophilie, ben on va reprendre le programme qu'on prenait au tout début des autres émissions, hein, c'est-à-dire au début de l'émission, à savoir les résultats locaux. Alors, je vous vois bouillir, toi, Valérie, et toi, Jean-Yves, pour le rugby à 13. Alors, je vais vous laisser parler de rugby à 13, mais d'abord, les autres résultats. Non, je rigole.
Allez, je vais commencer. Non, on va peut-être commencer.
Déjà, on va le aller score. Directement à l'essentiel, voilà, Valérie.
Le score.
Le score, 32 à 33.
Non.
33 à 32 pour Carpentras.
33 à 32 pour
Carpentras.
À domicile.
À domicile.
Donc, 33-32.
33-32 pour Carpentras.
C'est vraiment chaud, hein.
Ben ouais,
ça
c'est...
a été un match comme
bon,
je
c'est quand même les meilleurs, c'est les meilleurs pour l'instant, hein, Jean-Yves.
Ouais, ça a été très chaud. Bao était venu pour rester invaincu. Ils n'étaient pas venus pour perdre. Ils avaient annoncé dans la presse et sur les réseaux sociaux qu'ils venaient faire une coup à Carpentras. Et il n'y avait pas beaucoup de gens, à part les Carpentrasiens, qui pouvaient imaginer que ça allait bien se passer pour Carpentras. Et d'ailleurs, à la première mi-temps, donnait presque raison aux pronostiqueurs, ouais. Quoi.
Puisque... Valérie, combien ?
6-24.
Oh !
4 essais, quatre essais en première mi-temps.
Donc ils se sont dit, c'est plié à la fin de la première mi-temps. Donc,
Ouais, alors...
Ça a dû ronfler dans les vestiaires à la mi-temps.
Alors, Bien sûr que non, ça ronfle jamais dans les vestiaires à la mi-temps. Il y a toujours des discussions constructives. Non, bien sûr que il y a dû y avoir quelques mots savamment distillés par les coachs. De manière, de toute façon, ça fait partie du boulot de coach, mais de remobiliser ses troupes. Il est toujours plus facile de remobiliser une équipe qui est menée plutôt qu'une équipe qui mène. L'équipe qui mène a toujours tendance à moins prendre de... Mais non, mais c'est technique. Hein. Une équipe qui mène, eh bien, qu'est-ce que tu veux lui dire 24 à 6 à la mi-temps. Bravo les gars, continuez comme ça. C'est plus facile de remotiver les Carpentraciens qui ont 20 points de retard. C'est alors bien. Disant, vous allez bouger le fion parce que là, on passe pour des peintres. Et la preuve que ça a fonctionné. C'est plus simple, plus facile. Et la preuve, ben, c'est que les Carpentraciens ont fait une deuxième mi-temps de folie.
De folie, oui, avec Valérie, des essais. Déjà, c'est eux qui ont marqué les premiers essais. Donc, ça a un peu déstabilisé Bao. Ils se sont pris un coup sur la tête. Ils se sont dit quoi, ces petits Carpentraciens, là ?
Mais par contre, tu me disais que pendant la pause, justement, que Carpentras, ben, au niveau du classement, était bien remonté.
Ah oui, parce que Carpentras est actuellement... avec 18 points.
En parlant de remonter, si vous ne l'avez pas vu, mais Valérie vient de se casser.
Toujours ce siège, oui. Ouais. Donc Carpentras est deuxième ex aequo, hein, avec deux autres équipes, avec un match de retard. Hein. Donc c'est pas mal aussi. Hein. Mais bon, j'en reviens au match. C'est vrai que ça a été un match de folie. Parce que l'arbitrage, je dirais... On avait une petite tendance à penser qu'il y avait en faveur de Bao.
Cet arbitre est très bon.
L'arbitre de touche, j'ai oublié de siffler.
Benjamin Castille est un arbitre complètement intègre qui vient d'être intégré au...
Non, mais je doute pas. Mais l'arbitre de touche,
panel
il a oublié.
Le...
Valérie vient de désintégrer. Ouais, par
ouais. Non. L'arbitre de touche, quand même, écoute, j'y étais. Hein, il était à côté de nous. L'arbitre de touche était un petit peu, on va dire, à l'ouest. Je pense que oui, t'aimes un petit peu à l'ouest.
C'est pas grave. Okay.
C'est pas grave. De toute façon, Carpentras a gagné. Il avait les tripes. Ils ont su mettre du rythme dans la deuxième mi-temps. Je t'assurais qu'il y avait vraiment du rythme. Bao a eu
oui,
un
pour
petit...
remonter 18 points, il faut y aller. Quoi.
Bao a eu un petit sursaut d'orgueil. Mais Carpentras a quand même terminé avec une faute dans les dernières secondes qu'ils ont. Donc, c'est comment on appelle ça? Moi, je n'appelle pas ça un pénalty parce que c'est
une
pénalité qu'ils ont transformée vraiment aux dernières secondes. Quoi. Voilà.
Voilà, et toujours dans cette poule Elite 2, à noter le superbe résultat d'Entraigues aussi, qui est allé battre Salon sur le score de 50 à 12 à Salon samedi après-midi. Les Salonais qui sont derniers. Pour le coup, et les Entraiguois qui remontent à la 7e place. Superbe résultat aussi.
Ouais. D'accord.
Toujours en rugby à 13, un petit mot sur mon équipe de cœur, le SOA, qui s'est fait peur, qui s'est fait très peur hier contre Carcassonne, puisque ça ne s'est pas super bien passé pendant toute l'après-midi. À la 79e minute, ils étaient menés. Un essai de Martial Romano, encore un Carpentracien, qui permet au SOA d'égaliser 22-22. Et puis, le point en or, nouvelle règle depuis cette année là. Il y a plus de matchs nuls en Elite 1 et en Elite 2 non plus. On joue jusqu'à ce que quelqu'un marque. Ça peut être un drop, ça peut être une pénalité, peu importe.
Oui, c'est une mort subite quoi.
Ouais, c'est exactement ça. Et le point en or, c'était la première fois de l'histoire hier à Avignon. Et c'est le SOA avec une action de folie, un essai de 80 mètres, initié par le petit De Macedo et le petit Andreu. Interception dans leur 20 mètres, et puis ils sont allés marquer pour délivrer le SOA. Et victoire 26 à 22.
Bravo, SOA.
Ouais, on n'aurait pas. Moi j'étais au stade, on ne faisait pas les malins.
Bon, c'est la troisième journée, là, et ils sont 9e pour l'instant.
Ouais, avec un match en retard. Le premier match n'avait pas été joué par Avignon, et la semaine dernière, des conditions un peu compliquées du côté de Palau, puisque Avignon a mis presque 8 heures pour aller de Avignon à Palau del Vidre. C'est à côté de Carpentras, à côté de Perpignan, du côté de Argelès.
Ça fait beaucoup. Alors, on va rapidement donner les résultats. Je voulais juste quand même parler 2 secondes de la nuit du hand-fauteuil. Hein, parce
que, oui, à noter un grand résultat. Oui,
un grand résultat, très grand résultat en Elite 1. Mais, mais bon, quand même, il y avait 24 équipes, 4 équipes de plus que l'an dernier, pas moins de 150 participants. Ça a commencé à 20h, ça s'est terminé donc, à 2h du matin.
Donc vos fidèles serviteurs, Lionel voilà, et moi-même.
Voilà, on a joué, on a bien bien joué. L'intégralité, bien sûr, des bénéfices ont été reversés au profit du Téléthon. Et ça, c'est très bon, on a fait une bonne action. Et quel résultat?
Ah ben, je crois qu'on la demi-finale. Champagne.
On était en demi-finale. Grâce à des... parce que c'était une équipe RTVFM, Gymbox Loisir de Mazan. Et franchement, on s'est pas si mal débrouillé que ça.
Ouais. On a été très bon.
Et on a joué contre les vainqueurs.
On a perdu contre le SOA Fauteuil, le SOA 13 Fauteuil, qui avait déjà remporté le tournoi l'an dernier et qui a encore remporté ce tournoi cette année. Bon, on ne m'a pas donné le score de la demi-finale.
Voilà. Mais en tout cas, c'était un très beau match.
Je vais faire vite fait.
Deux minutes.
Il y avait avec le hand, avec Mazan, donc championnat du territoire, l'entente Carpentras-Mazan s'est imposée à Monteux sur le score de 37-18. Les moins de 15 ans, Elite PACA l'emporte face à Gap sur le score sans appel de 48-14. Les moins de 17 ans, Elite PACA s'incline quant à elle sévèrement 35-20 face à une belle équipe de Gap. Il y a aussi des résultats avec l'ABC de Carpentras en U11 filles. Carpentras recevait Nyon, c'est malheureusement, on s'est pris une déculottée 39-9. En U13, garçon, Carpentras recevait Nyon, la Carpentras donc vainqueur 44-20. En U13, fille, Carpentras Cavaillon 28-42. U18, garçon départemental, Carpentras recevait Les Angles 69-79. En U15, garçon, Cavaillon donc recevait Carpentras et la Carpentras s'est imposée 123-24. En U18 filles, le Carpentras se déplaçait à Château-Renard et l'a emporté 46-41. En U17 garçons, donc Carpentras la recevait digne et là aussi Carpentras s'est imposé 73-50. En senior filles,
respire, hein.
Carpentras recevait Rognac et la Carpentras là aussi encore une fois s'est imposé 61-34. Et enfin, en senior garçon, Carpentras donc se déplaçait à Tarascon et s'est imposé 61-44.
Oxygène pour Madame Giraudy, s'il vous plaît.
Il y avait aussi du basket en National 1 avec Besançon Sorgue. Sorgue qui s'est incliné 64-81. Sorgue est donc troisième. Troisième. Et dixième. Ouais. Points, à seulement 3 points du troisième.
On revient le championnat de basket super dense cette année. Je serai du côté de Sorgue samedi soir pour assister au premier match de la phase retour de nos amis Sorguais. Ça promet un superbe spectacle.
Voilà. Parce qu'il y a quand même, il est dixième avec 18 points, 7 points seulement du troisième. Ça fait quand même pas beaucoup.
Ouais. Il y a eu quelques on va dire secousses et trous d'air dernièrement du côté de Sorgue. J'aurais aimé qu'on ait le temps d'en parler. On en reparlera
la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Venir et ça pas là.
Voilà,
ah,
bah,
ça y est, on pourra parler de basket, en fait.
Voilà. Bon, tu vas nous regretter, Valérie. Hein, on va la regretter. Monsieur.
Mais quel faillot.
Bon, oui, c'est la femme du président, mais quand même. Mais en tout cas, tu vas nous regretter. Bon, merci en tout cas à tous. Merci beaucoup, Jean-Pierre Brunet. Merci beaucoup, Benoît Gourrier, d'avoir
merci
accepté
Bruno.
Notre invitation. Jean-Yves, merci à toi. Hein. Merci, Valérie. Merci, Théo. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
Merci, Lionel.
Ben, je t'en prie, Jean-Yves.
Personne ne te dit jamais merci à toi.
Non, c'est vrai, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je vous mette vous en valeur.
Allez, au revoir.
Allez, merci, Lionel.
Allez, à la semaine prochaine.
Au revoir.